France Musique.
Bonsoir Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour un nouveau Classic Club.
1, 2, 3, pas. Hein ? Encore une fois ?
Le cri du patchwork.
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui écoute et s'écoute. Nouvelle série d'émissions à partir de ce soir, autour d'une nouvelle thématique, l'instant. Cette petite portion de temps totalement impalpable, ce moment que l'on ne saurait définir, que l'on ne saurait attraper, et qui pourtant est au centre de pas mal de préoccupations de musique de création actuelle. Et pour rattraper ces instantanés de son, nous recevons aujourd'hui en premier lieu Andrew Guerceau, musicien et ingénieur à l'IRCAM, compagnon de route de Pierre Boulez dans ses aventures électroniques, pour évoquer avec lui la grande aventure de l'électronique en temps réel. Cette idée folle de faire réagir un ordinateur dans le présent, instantanément à l'écoute de l'instrument acoustique sur scène. Une prouesse technique toujours en devenir depuis 40 ans, mais qui tend à réduire l'instant où l'acoustique et le numérique se rencontrent. Et comme chaque mardi, un son capturé dans l'instant. Le cri du patchwork, thème numéro 25, épisode numéro 1, séquence numéro 1.
Hé, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Leçon de la semaine.
La beauté cachée, les délais, on se voit sans délai.
Le delay. Un effet sonore qui s'est imposé dans toutes les musiques électriques et électroniques depuis les années 50. Le delay, c'est comme un petit écho que l'on pourrait contrôler et répéter à l'envi, créant des espaces sonores souvent abyssaux. Et quand on parle d'espace, on se doit de citer notre cher Sun Ra, apôtre d'une musique extraterrestre, grand prêtre d'une musique cosmique. Et son utilisation du delay appuie en effet cette dimension cosmique, comme dans ce Voice of Space, où l'on entend bien ses impacts répétés et multipliés à l'envi. Avec le delay, les courts échos répétés tendent à disparaître progressivement, dans un décrescendo hyper régulier. Un son avec du delay, c'est comme un instant sonore figé qui s'éteint dans ses propres réminiscences. En quelque sorte. Un exemple avec le groupe Wolf Eyes, dans son Ancient Delay, hypnotique.
Thank you.
tout l'intérêt du delay est qu'on peut réellement le maîtriser. Le nombre de répétitions, l'intensité de ces répétitions, la régularité de ces répétitions. Roger Waters, dans One of These Days, de l'album Echoes, des Pink Floyd, s'amuse ainsi à créer une basse complexe grâce au delay. Bien qu'il ne soit en train de jouer qu'une ou deux notes, le delay spatialisé de sa basse, en stéréo, crée plein d'impacts rythmiques qui donnent alors au morceau tout son groove. En gros, dans ce morceau des Pink Floyd, on assiste à la transformation progressive d'une musique psychédélique en un bon vieux boogie-woogie. Dans cette utilisation du delay par les Pink Floyd, on peut y voir un certain souvenir des tout premiers delays des années 50, en particulier le fameux Slapback, développé par Sam Phillips, PDG de Sun Records, producteur d'Elvis Presley. Le Slapback est un écho très court, à une seule répétition, qui crée un effet de rebond, extrêmement goûté par le guitariste d'Elvis, Scotty Moore, disparu en juin 2016. L'astuce pour créer un écho simple avec des magnétophones à bande est de faire fonctionner en même temps, sur la même bande, une tête d'enregistrement et une tête de lecture. Ainsi, la tête de lecture lit avec un retard court, un délai en anglais, le signal qui vient d'être enregistré. Génial!
Train, train, coming round, round the bend, train, train, coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again, never will again.
Le compositeur américain Michael Fiddey a repris ainsi le principe de slapback des années 50 dans une œuvre pour une guitare électrique et delay appelée slapback. Écoutez attentivement ce hoquet entre la guitare réelle à droite et son delay unique à gauche. un ping-pong incessant qui finit par nous donner l'illusion que la guitare virtuelle, l'écho de la guitare réelle, prend son indépendance. Ou comment jouer à deux, mais tout seul. L'énorme performance Rotomotor, Ein motorisches Idiotikon, d'Anton Bruin. Pendant 28 minutes, le compositeur et plasticien énumère des mots du dialecte suisse-allemand dans un ordre logique suivant les assonances et allitérations de ces mots. Chaque mot diffère du précédent d'une seule lettre, et chaque mot est répété grâce à un delay de 0,6 secondes, permettant à chaque mot de se superposer à son dérivé. On ne comprend plus grand-chose, mais on perçoit une transformation progressive d'un objet sonore, en l'occurrence, un mot. Et c'est vrai que le fait d'utiliser du delay permet de troubler la perception, la discrimination auditive. Surtout si on en abuse jusqu'à créer des nuages de sons à l'infini. En tout cas, tel que le cherche le compositeur et guitariste canadien Tim Brady dans Delay Tactics Clouds. Thank you. une musique qui se répand, comme si elle coulait ou se noyait dans un tout informe. Une masse sonore qui délaye les impacts. Tiens, délayer, en ancien français, voulait également dire donner un délai. On retrouve ce délayage dans Time Machines du compositeur américain Sébastien Currier. Dans cette forme de concerto pour violon et orchestre de 2007, le violon tend à se délayer dans un orchestre tout en delay, reprenant en nombre ce qu'impulse le soliste. Dans ce Time Machine de Sébastien Currier, comme tout est fait acoustiquement, on ne retrouve pas le delay mécanique et rythmiquement régulier des précédents extraits. Et c'est vrai que le delay lui-même peut également être l'objet de variations, en modifiant et en multipliant les vitesses de l'effet. François Bell, dans Rêverie de la multiplication, l'un des nombreux mouvements de Jaïta ou Murmure des eaux de 1970, fait proliférer les tout petits impacts de sa musique de l'infime, évoquant alors le delay naturel des gouttes d'eau. Thank you. L'effet dub du delay. Il manque plus une bonne drum and bass sur cette pièce de François Bell pour en faire de la dub. Le genre delay par excellence. Parmi les innombrables exemples de delay dans la dub, nous avons choisi un extrait de Aground du duo allemand Rhythm and Sound en 2002. Pourquoi ? Parce qu'on y entend bien les espaces sonores que crée le delay, ainsi que ce temps musical entre le figé et le mouvant, induit par l'utilisation de cet effet quasi à l'origine de la dub. Côté hallucinatoire dans la dub. De par son utilisation d'effets en tout genre, elle trouble notre perception et nous emmène bien loin de là où l'on est. Une forme de transcendance, en partie par l'action du delay. Le compositeur Alvin Lucier, de son côté, cherche à guérir par le delay. The Only Talking Machine of Its Kind in the World est une performance de 1969 destinée à être réalisée par une personne bégayante ou avec tout autre défaut de prononciation, mais croyant dans le pouvoir guérisseur du son, selon les mots du compositeur. Après avoir lu un texte devant un public, pour que celui-ci identifie les particularités de prononciation, le performeur est invité à renouveler l'expérience dans une machine dotée d'un effet delay, jusqu'à ce que le delay gomme totalement ses particularités. Le delay, un remède inconnu.
This is a poem by Thomas Salomon. Called There Are Raspberries. Creating entrances into spheres. Sometimes abrupt rhythms, sometimes smooth rhythms. Whether the form is smooth or rough, in rhythm, in music, in poetry, perhaps in language. At its best, the speaker offers you an entrance into space and transmitting the transmission of communication in that space is what I call fluency. And I believe that fluency to be porous and multiple.
Vous voyez qu'on y arrive, hein? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
Andrew Guerceau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes musicien et chercheur à l'IRCAM et vous avez participé dès le départ de cette IRCAM à la grande aventure du temps réel. Alors je dis la grande aventure parce qu'avec toute une pléiade de vos collègues, c'est-à-dire musiciens, compositeurs, réalisateurs, informatiques, musicales, les fameux RIM, vous avez participé à constituer des outils pour que l'électronique réagisse en temps réel, en live, sur scène avec les instruments. Alors déjà, Andrew Guerceau, ce mot temps réel, comment est-ce qu'il est apparu ?
Je pense que dans un premier temps, elle n'était pas vraiment axée sur le temps réel, mais c'est devenu une nécessité. Quand on a commencé à produire de la musique à l'IRCAM, c'était de la musique sur bande. Et il y a eu quelque chose de très important, à un moment donné, c'est de poser la question de la relation avec l'instrument. Et derrière cette question de la relation à l'instrument, c'est le lien, garder le lien avec la tradition du jeu instrumental. Donc ça, c'était un peu ça l'enjeu derrière. Et donc, après les premières pièces qui étaient sur bande à l'époque, sont venues les pièces musique sur bande plus instrument. Et c'est là où le problème s'est posé. Parce que, de facto, dans beaucoup de cas, les instrumentistes devenaient prisonniers de la bande, ce qui n'était pas quelque chose de très naturel. C'est un peu comme si, par exemple, si je fais une comparaison au théâtre, vous faites une pièce de Marivaux et vous avez un acteur en vrai, si je peux dire, et un autre acteur sur un film vidéo, ça devient très vite assez bizarre et tout le timing et tempo et mouvement est perdu. Donc c'était la même chose, c'est-à-dire que la priorité, c'était de pouvoir rester en relation avec le geste instrumental et le geste instrumental qui change d'une interprétation à une autre. Donc il fallait rester en contact avec ça. Et c'était ça la motivation pour le temps réel. Les programmes à l'IRCAM au début faisaient du calcul en temps différé, donc il fallait attendre une heure, deux heures, deux jours.
Ce qui fait des longs concerts, si on veut réussir à faire des concerts.
C'est un peu comparable avec le synthèse d'image. Dans le cinéma, on prend beaucoup de temps pour voir la scène de Titanic qui coule. Mais donc, pour la musique, c'était... et moi, en tant que musicien, parce que moi, j'ai une formation de musicien, donc je jouais la flûte, etc. Et donc, pour moi aussi, ça me paraissait un peu, comment dire, contraignant comme relation. Et donc, tout simplement, il fallait inventer une machine qui puisse suivre le mouvement, si je peux dire. Et donc, c'est par là qu'a commencé l'aventure. Alors, quand je suis arrivé à l'IRCAM, il y avait un ingénieur qui s'appelle Giuseppe Di Giugno, qui venait en fait de la physique atomique. Il a croisé Luciano Berio dans un compartiment de train un jour et il a dit « j'ai un hobby, c'est les machines de temps réel » et Luciano Berio l'a fait venir à l'IRCAM. Donc Pepino, comme on l'a appelé, il a créé une série de machines et quand on a fait Répond, qui était la première pièce sur laquelle j'ai travaillé avec Boulez, on l'a fait avec la troisième ou quatrième machine de Di Giugno. C'était une machine qui s'appelait la 4X. Donc c'était un ordinateur qu'on a créé.
Uniquement pour cette pièce-là au départ?
Non. C'était un ordinateur pour le traitement du son en temps réel. Par la suite, ça a été joué, utilisé par une trentaine, quarantaine de compositeurs, dont Stockhausen, entre autres. Alors, en ce qui concerne Répond, on n'avait pas commencé à... En fait, quand j'ai commencé à travailler avec Boulez, l'idée, c'était de, entre guillemets, refaire « Poésie pour pouvoir », qui était une pièce pour orchestre et voix. Donc, on s'est lancé dans des expérimentations de transformation de la voix. Et c'était absolument catastrophique. Et donc, ça donnait des résultats comiques. Donc, c'était pas bien du tout. Et donc, peu à peu, on s'est tourné vers des instruments à caractère percussif. Parce qu'on avait travaillé à l'époque aussi avec... des instruments à son continu, comme le hautbois, le violon, etc. Et là aussi, c'était pas totalement satisfaisant.
C'est-à-dire que l'ordinateur n'avait pas à calculer vraiment, par exemple, le timbre, la durée des notes.
Non, c'est plutôt la question que la panoplie des outils de transformation de sonore dont on disposait à l'époque marchait mieux, on va dire, musicalement, avec des instruments, avec un type, une caractéristique percussif, que les sons continus. Les sons continus sont venus, par la suite.
Alors on va en reparler justement des sons continus après avec par exemple la flûte. Oui. Là on va écouter le début, le moment où l'électronique rentre dans Répond pour avoir ça dans l'oreille justement avec ces cinq instruments solistes qui entourent l'orchestre.
Six.
Ils sont six, excusez-moi. Oui. Il y a le vibraphone, le Gugenspiel, la harpe, le cymbalum, le piano.
Deux pianos.
Et deux pianos. Donc c'est six instruments qui sont autour de l'ensemble et qui vont vraiment devenir finalement le noyau à partir duquel tout l'électronique va émerger.
Voilà.
Thank you.
un extrait de Répond de Pierre Boulez. Là, nous étions, Andrew Gersau, au tout début du moment où l'électronique prend vraiment rentre en tant qu'instrument parmi ces six solistes. Donc, les six solistes, c'était le vibraphone, le glockenspiel, la harpe, deux pianos et un cymbalum, que des instruments percussifs, c'est-à-dire en tout cas qui ont un impact et un son qui est très peu résonant, qui meurt quasiment tout de suite. Et c'est vrai que là, on a l'impression, par rapport à la sonothèque d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un delay constant, c'est-à-dire que comme si chaque instrument était repris dans plein d'enceintes autour de nous. En plus, on entend bien dans cet enregistrement une forme de spatialisation qui est créée. Et puis, ce delay qui n'arrête pas de se répandre, et puis une forme de, on va dire, un fleurissement constant. Alors là, Andrew Gersau, est-ce que l'ordinateur est en train de créer en temps réel, ou bien est-ce qu'il déclenche des formes de samples au moment?
Non. Tout le signal est calculé en temps réel. Ce qui est écrit, c'est le type de transformation utilisée, les paramètres de transformation. Et là, vous avez parlé de délai. Ça, c'était un élément qui était très important dans cette partie de réponse, parce que le son est pris dans un module qui fait des délais du son jusqu'à 14, 15, etc. Et chacun des délais est transformé individuellement. Et donc, c'est ça qui fait la prolifération.
Qui est un mot très boulésien, justement. C'est-à-dire la prolifération. Oui, mais et l'aile électronique lui permettait d'aller dans le sens de son écriture, finalement.
Oui, tout à fait. Mais il y a aussi Répond, qui est une forme d'écriture où à l'époque il y avait un soliste seul, il y avait un chœur en face.
Dans le chant grégorien.
Voilà, dans le chant grégorien, et c'est la notion de prolifération. Il y a aussi une autre idée dans cette histoire de chant grégorien, c'est que le soliste est séparé du chœur, et donc il y a implicitement la notion de spatialisation qui est un élément aussi important dans l'écriture de Répond.
On entend évidemment cet ordinateur qui commente finalement ce qu'il entend, il l'ingère et puis après il va redispatcher un petit peu partout ce qu'il a entendu. Est-ce que vous avez eu, quand vous avez fait les tests, parce que ça a duré quelques années, un ordinateur qui devenait fou? Parce que ça, c'est quand même l'idée, c'est que dans l'instant de création, il attrape de la musique, il la génère, enfin il veut dire d'abord il la synthétise, il la calcule, puis après il génère de la musique. Est-ce que vous arrivez d'arriver à des résultats qui n'étaient pas du tout prévus, et puis surtout quelque chose qui aurait pu changer la manière d'écrire de Pierre Boulez?
Oui, dans une autre partie de Répond, on était en train d'écrire un programme qui faisait une sorte de musique de synthèse, parce qu'il y a des petits moments ici et là dans un moment, en fait, dans Répond, il y a une musique de synthèse, une espèce de musique de fond, ce qu'on appelait le wallpaper music, le musique papier peint. il était tard, il était 4 heures du matin, on était fatigué et j'avais pas mis le bon paramètre dans le programme, et ça a démarré, ça fait quelque chose de complètement loufoque. Et il a dit, c'est pas ça que je voulais, mais c'est bien garder cette valeur-là, parce que peut-être on va pouvoir l'utiliser ailleurs après. Donc voilà, mais non, le vrai travail autour de répondre pour ces transformations, c'était d'établir le vocabulaire des transformations, les paramètres qui allaient avec, qui étaient cohérents sur le plan de l'écriture musicale. C'est sur ça qu'on a passé beaucoup de temps.
Il faut savoir quand même que Réponse était à l'époque, je me rappelle d'une interprétation qui avait été faite à Avignon, par exemple, où on avait vraiment tout un système incroyable. Il a fallu recréer une salle dans les carrières à côté d'Avignon. Oui. C'est extrêmement lourd comme installation.
À l'époque,
À l'époque. Aujourd'hui, finalement, toute cette miniaturisation des outils va aussi dans le sens de cette facilité à aller vers le temps réel pour n'importe quel compositeur.
Oui, non, absolument. Aujourd'hui, Répond peut se jouer sur le portable que j'ai à côté de moi dans le studio. Et les haut-parleurs sont devenus beaucoup plus petits, donc c'est plus le grand armada qui part pour faire répondre. Ça nous a considérablement facilité la vie, c'est vrai.
Vous avez réduit au fur et à mesure cet instant où l'acoustique et le numérique se sont rencontrés, dans l'ordinateur et l'instrument. Et est-ce que finalement, on a progressivement fait avancer ces outils pour encore plus réduire cet instant, pour éviter toute latence possible?
C'est moins une question de latence que de l'intelligence de la machine. Quand on a fait Répond, la machine était ce que j'appelle, moi, on a mis en place des transformations passives. C'est-à-dire que le procédé n'analyse pas la musique, ne cherche pas à comprendre la musique qui est jouée. Et donc, les transformations sont passives. Mais au fur et à mesure que les machines sont devenues plus rapides, au fur et à mesure que ça progressait au niveau de recherche de l'algorithmique, on a pu mettre de plus en plus d'intelligence dans la machine. Donc, pour commencer à analyser ce qui se fait, prendre des initiatives par rapport à l'analyse, etc., etc. Après, il y a un autre aspect qui, pour moi, était très important dans Répond, parce que Répond, on a commencé à travailler ensemble avec Boulez en 1980. Et la dernière fois que j'ai travaillé avec lui sur Répond, c'était en 2011. Et la pièce, dans l'esprit de Pierre, c'est pas une pièce qui est finie. Et il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce processus, parce qu'en fait, la pièce a passé à travers plusieurs générations technologiques, de machines, de logiciels, etc., etc. Et donc, on était obligé de s'embarquer dans cette chose qui s'appelle le portage, c'est-à-dire qu'on a un vieux programme informatique qui marche plus, qui marche sur un vieux ordinateur qui est bientôt condamné, qu'il faut faire marcher sur un nouveau ordinateur qui vient d'arriver, qui est évidemment différent. J'ai trouvé toujours ça intéressant. Parce que c'était le moment où on pouvait se dire, bon, on fait un petit bilan, là on sait que dans tel endroit on n'a jamais été satisfait, est-ce qu'on peut faire une amélioration, ou est-ce qu'on peut changer le principe, ou est-ce qu'on peut l'adapter, etc. Et tous ces changements ont été faits sur Répon progressivement. Au début, Répon a commencé avec un système de spatialisation qui était relativement rudimentaire. Début des années 90, l'IRCAM a mis au point un logiciel de spatialisation sonore, donc il a été intégré dans la version successives de Répon, etc.
Et ce qui s'est passé un peu aussi avec Explosant Fix, une autre œuvre de Boulez qui a duré plusieurs années dans son processus, et en particulier parce que les outils informatiques ont évolué, et comme par exemple le suivi de partition, qui est aussi un outil de temps réel incroyable, c'est-à-dire que l'ordinateur réagit à ce qui est joué par le musicien suivant une partition et va déclencher des samples ou des effets sonores uniquement en écoutant ce qui se passe.
Voilà. Alors, dans le cadre de Répon, il y avait des grandes sections. Et donc, d'une section à une autre, le programme était mis en place manuellement. Après, je crois que c'était en 1984, Philippe Manoury a créé une œuvre qui s'appelle Jupiter pour flûte seule et électronique. Et c'était la première fois qu'on avait un exemple d'une pièce où le suivi de partition marchait. Et c'est en fait cette pièce-là, je me souviens très bien, j'étais à côté de Pierre, on est allé écouter la création ensemble, et à la fin de la pièce, il s'est tourné vers moi, il a dit « maintenant on peut commencer à travailler sur Exposant Fix ». Parce que le problème, jusqu'à là, parce que Boulez avait commencé Exposant Fix longtemps, même avant la création de l'IRCAM, et il a fait toute une série de versions, mais qui utilisaient l'équipement analogique qui était... C'était pas le fait que ça soit analogique ou pas, c'était pas ça la question, c'était la maniabilité de mise en place des différentes transformations dans le temps. Donc ça manquait de une sorte de côté virtuose. En fait, lui, il voulait idéalement changer la transformation d'un double croche à la suivante.
Ce qui était impossible avec les machines de l'époque.
Voilà. Et donc, Jupiter, en fait, dans Jupiter, il y a deux choses intéressantes. C'est cette question de suivi de partition. Donc, c'était un premier exemple de quelque chose qui marchait, qui était satisfaisant musicalement. Et l'autre chose aussi, c'est dans cette pièce-là, on trouve les premières expérimentations dans le domaine de la composition assistée par ordinateur.
Alors ça, on va reparler avec une autre œuvre de Pierre Boulez qui est Anthème 2. Voilà. Je propose d'écouter pour comprendre ce suivi de partition. Par exemple, vous avez un petit passage de l'Explosant Fix extrêmement virtuose. Et là, on se dit que finalement, oui, un homme appuyant sur un bouton serait toujours un petit peu en retard et ne pourrait pas faire trouver cet instant de corrélation entre l'acoustique et l'électronique. On écoute donc ce petit bout d'Explosant Fix de Pierre Boulez. Petit extrait de Explosant Fix de Pierre Boulez, mais là on entend bien vraiment que on a en stéréo l'ensemble instrumental et la flûte soliste, et puis on a ces sortes de slaps de flûte basse construits à partir de la flûte originelle.
Plus des sons qui ont un caractère métallique et qui sont faits à partir des sons multiphoniques de la flûte.
Voilà, donc on recrée une métaflûte finalement, mais uniquement par le suivi de la partition, c'est-à-dire que personne n'appuie sur un bouton là en l'occurrence.
Non, là on lance le processus au début de la section, donc ça c'est Explosant Fix, transitoire 7, le premier mouvement. Alors, pour revenir rapidement sur la question de work in progress, etc., idéalement, dans Exposant Fix, il y a 8 mouvements. Et dans la version finie par Boulez, il n'y en a que 3. parce que après les trois mouvements, il a dit bon, je suis allé aussi loin que je voulais aller avec cette idée-là, et maintenant il faut passer à autre chose.
Et il passait à autre chose, c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs pièces qui ont essayé de renouveler ce rapport au temps réel, et c'est donc Anthème 2, une pièce pour violon électronique, et vous êtes venu ici avec des fichiers assez inédits, puisqu'on va écouter justement le travail entre l'instrument seul, isolé, enregistré de très près, et puis l'instrument avec l'électronique. Donc voici un extrait d'Anthème 2. On va d'abord écouter la version violon seul. Et maintenant, on écoute la version avec l'électronique. Là, c'était Essun Kang, la violoniste de l'ensemble intercontemporain, un peu à nu, maintenant habillée avec l'électronique. Extrait de Anthème 2 pour violon électronique de Pierre Boulez. Ici, Essun Kang était au violon et puis l'électronique d'Andrew Guerceau. Alors, Andrew Guerceau, je dis bien l'électronique d'Andrew Guerceau parce que lorsque vous travaillez avec Pierre Boulez, c'était vraiment un compositeur et une personne qui va faire l'électronique, mais finalement, vous avez aussi ce rôle de compositeur en laissant cette place à l'ordinateur de calculer ce qui se passe sur scène avec l'instrument.
Oui. Premièrement, je ne me considère pas compositeur. Mm-hmm. Si je devrais prendre un parallèle avec quelque chose dans l'histoire qui peut-être paraître un petit peu présomptueuse, ça ressemble plus le l'atelier de la Renaissance. C'est-à-dire qu'il y a un maître qui a une vision, et après on apporte sa compétence. Ma compétence, c'est la compétence dans le domaine de l'informatique musicale, ma compétence en tant que musicien, ma compétence en termes d'un peu d'imagination. Et donc, en fait, ce qui, vers la fin de la, disons, de la relation avec Boulez, la façon la plus habituelle où on travaillait, c'était... On commençait toujours avec discuter quelle était l'idée musicale. Par exemple, à un moment donné, dans un thème, pas là, mais dans un autre endroit, il m'a présenté avec un texte pour le violon, et je dis, bah, écoutez, moi, je peux rien faire si je sais pas comment ça a été élaboré. Donc, il m'a expliqué que c'était inspiré à travers des sculptures de César, etc. Et une fois que j'avais intégré un certain nombre de choses comme ça, j'étais en mesure de lui proposer des choses qui étaient, au niveau de l'écriture électronique, qui étaient en phase avec la partie du violon. Et donc, c'est ce que je faisais. Donc, je faisais une première proposition, une deuxième proposition, et on mettait ça au point. Et après que la pièce avait été jouée 4-5 fois, on rajoutait autre chose, on éliminait quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'on fonctionnait, en fait.
Là, dans l'extrait qu'on vient d'écouter dans Thème 2, on sent vraiment que le violon est entouré de plusieurs violons qui l'harmonisent. Donc, vraiment, il y a tout un parcours harmonique avec un violon qui prend de l'ampleur. Là, ici, l'ordinateur va créer cette enveloppe harmonique et il suit finalement ce que Pierre Boulez entend comme harmonie, mais il va aussi créer lui-même ses harmonies au fur et à mesure où il est vraiment à suivre une partition qui est définie par le compositeur au départ.
Oui, alors, donc on revient à Philippe Manoury, 2 minutes, avec son idée de partition virtuelle. L'idée, c'était d'avoir une partition qui était définie dans la machine, dont la réalisation finale se ferait en fonction du jeu instrumental en temps réel pendant le concert.
Une forme de partition ouverte, finalement.
Voilà. C'est ça, à la racine. Une des racines de cette idée-là, c'est effectivement l'idée de l'œuvre ouverte de Umberto Eco. Mais dans l'exemple qu'on va entendre par la suite, il y a un type d'écriture de violon qui est un peu nerveux. Et c'est la machine qui va créer 2 autres couches d'une écriture semblable, histoire de noyer la perception du violon. Et en plus, peut-être on l'entendra pas complètement à la radio, mais c'est spatialisé tout autour du public. Donc, une espèce de nervosité qui part dans tous les sens, si je puis dire.
Alors, une nervosité qu'on va entendre d'abord au violon seul. Donc, encore une fois, chers écoutants, ce sont des enregistrements que vous ne trouverez pas dans le commerce. Ce sont des outils de travail, vraiment. On entend le violon tout seul. Et puis ensuite, on enchaînera avec la version elle-même habillée par l'électronique. Extrait de Anthem 2 de Pierre Boulez pour violon électronique, nous sommes en 1997, et là Andrew Grierso, on a entendu d'abord le violon tout seul, avec ce mode de jeu très boulezien d'ailleurs, avec des sauts, des angles rythmiques assez particuliers, et puis tout d'un coup cette manière de commenter que l'ordinateur va créer, en fait, c'est vraiment un commentaire qui ne sont pas des notes qui ont été voulues à ce moment-là par le compositeur, c'est vraiment quelque chose que l'ordinateur va décider lui-même.
Oui, c'est généré en temps réel, disons c'est basé sur le type d'écriture de violon seul. Mais il rassemble des paramètres qui incluent les accents, les durées, les notes, etc. Et donc il fait des propositions en temps réel qui sont dans le même style, dont le but, une fois de plus, c'est d'aller semer la confusion.
Semer la confusion pour aussi l'interprète, finalement, parce que l'interprète, en jouant, entend quelqu'un qui commente ce qu'il est en train de faire.
Oui.
Dans cet instant, justement, de la rencontre entre l'électronique et l'acoustique, que ce soit en studio ou bien en live, il y a quand même ce désir pour le compositeur, l'interprète ou même vous, Andrew Grierso, en tant qu'assistant dans la composition électronique, d'être surpris par ce que l'ordinateur va nous donner. On a envie d'avoir ce petit coup de danger, vous savez, ce moment où le live pourrait très bien dériver vers du n'importe quoi.
Non, je dirais qu'entre l'algorithmique en temps réel, plus le charme habituel de l'informatique en temps réel, on a tous les surprises sûres qu'il faut. Non, en fait, un des éléments qui était toujours important, c'était d'adapter l'acoustique de la pièce dans des endroits où on jouait. Et ça, c'était pas toujours facile parce qu'on jouait pas toujours dans les salles de concert traditionnelles. Et parfois, ça, on avait des résultats qui étaient plus satisfaisants dans, je me souviens, par exemple, on avait fait répondre dans une grande usine abandonnée à Milan et ça sonnait absolument merveilleusement bien, alors que dans une salle ailleurs, c'était moins bien. Donc ça, c'était, on passait beaucoup de temps pendant les répétitions sur ces aspects-là aussi. Il fallait retrouver un peu le monde, l'équilibre de la pièce.
Parce qu'en même temps, il faut avoir le son acoustique, le son enregistré, voilà. Le son qui est rediffusé, qui voilà. Commente. Ouais. C'est vraiment un mariage dans un instant présent. Ouais. Toujours trouver le moment où tout ça va se marier parfaitement.
Ouais. Après, on a trouvé, chemin faisant, des petits astuces. Par exemple, dans Thème, le violon, il est amplifié. Mais il n'est pas amplifié pour le rendre plus fort, pour le mettre en concurrence, si je peux dire, avec l'électronique. C'est pour lui donner une couleur qui se marie mieux avec l'électronique. Parce que ça fait partie des premières leçons qu'on a eues. C'était que quand on avait un instrument purement acoustique et électronique, les deux mondes étaient trop distants. Et à partir du moment où il y en avait un, l'instrument était amplifié, il y avait une couleur qui nous garantissait une meilleure homogénéité.
Alors dans Anthem, ce qu'on vient d'écouter justement sur cette composition assistée par ordinateur, la CAO, c'était des réservoirs de notes qui avaient été finalement enregistrés auparavant et qui ont été après redispatchés ou que l'ordinateur recréait à partir du jeu qu'il connaissait. Mais depuis, on a créé des logiciels qui sont capables de, en temps réel, calculer ce que le musicien est en train de faire.
Voilà. Donc on progresse dans comme je disais avant, on a progressé dans l'intelligence de la machine en temps réel.
Et c'est le cas de le logiciel Omax, qui a été créé par Gérard Assayag au sein de l'IRCAM.
Voilà, et aussi avec Gérard Bloch. Donc c'est un logiciel, l'idée de base de ce logiciel, c'est de... Il y a un instrumentiste qui commence à jouer et le programme fait une analyse et il commence à repérer des enchaînements, des structures récurrentes. Et au fur et à mesure que cette identification de structure se fait, le programme commence à proposer une improvisation basée sur ce que le programme a appris. Par exemple, si on prend un instrumentiste qui commence son premier dialogue avec Omax, au début, Omax, ce qu'il propose, c'est un peu, ça manque un peu de culture du jeu de l'instrumentiste. Et au fur et à mesure que les structures commencent à être identifiées, les enchaînements, etc., il commence à proposer quelque chose qui est plus structuré, plus construit et plus dans le style de la personne qui joue.
Oui, ça devient un ordinateur vraiment intelligent parce qu'il comprend le style, il comprend l'esthétique du musicien. Et là, on commence à avoir presque un dialogue d'égal à égal.
Je dirais pas jusqu'à l'esthétique parce que ça nous amène sur des terrains un peu dangereux. Mais en tout cas, les éléments structurels qu'on peut en quelque sorte objectiver, c'est sur ça que les choses sont construites. Mais bon, effectivement, s'il copie le style est à une esthétique implicite et donc effectivement, l'esthétique se retrouve au final aussi.
Alors, vous êtes venu avec un enregistrement un peu inédit puisqu'il n'est pas encore disponible, enfin, il n'a jamais été disponible encore en commerce. C'est Gérard Assayag qui nous a proposé de le passer. C'est Fabricio Cassol, le saxophoniste à l'origine d'Acamoun, par exemple, donc grand saxophoniste improvisateur et qui là se retrouve face à son double, une sorte de dialogue avec une ombre double présente par l'ordinateur. Donc, le fameux logiciel Omax. C'est sur cette improvisation de Fabricio Cassol qui était à gauche, je crois, c'est ça?
Lui, il est à gauche et son double est à droite.
Le double ordinateur était à droite que nous quittons. Merci beaucoup, Andrew Guerceau, d'avoir accepté l'invitation.
Merci de m'avoir invité.
Pour évoquer cette aventure du temps réel. Alors, vous êtes en ce moment l'organisateur de Mutation Création, qui est une forme de festival que vous co-organisez avec le Centre Pompidou. Ça se tient depuis le 15 mars et ça ira jusqu'en juin avec installations, ateliers, rencontres et débats autour d'une notion. Aujourd'hui, c'est les nouvelles formes de l'innovation technologique en relation avec les arts, tout simplement. Ce sera un rendez-vous annuel à partir de cette année que vous suivez vraiment de près puisque l'IRCAM est partie intégrante de cette organisation. Évidemment, toutes les informations sont sur l'IRCAM.fr. Merci beaucoup, Andrew.
Merci.
Au revoir. Fin de notre premier épisode du Cri du Patchwork sur l'instant. Merci à Perrine Mingui aux commandes à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui la technique Pierrick Charles. Merci à Flora Sternadel, toujours à l'affût du moindre son. La semaine prochaine, une rencontre croisée sera au programme autour du compositeur Michael Pizarro. De passage à Paris le 15 février dernier, pour un unique concert réunissant l'ensemble Dédalus de Didier Achour et Aum Grand Ensemble de Julien Ponviane. donnée à la Générale, lieu des arts alternatifs par excellence. L'occasion de rencontrer des acteurs, des musiques expérimentales dans l'héritage de John Cage, qui pose sans cesse la question de l'instant où se fait le son, la musique, au sein de partitions qui laissent la part belle à l'écoute et au silence. Une musique d'un instant ineffable. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, je vous donne rendez-vous sur le site internet de France Musique, francemusique.fr, où vous pourrez également podcaster cette émission. Chers écoutants.
Si je fais 1, Togaram, 1, parap, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, parap, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est minuit, l'heure pour moi de passer la main à Anne Montaron et son Alabrévé.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.